Bon, on peut dire que la saga syndicale à la Banque Laurentienne, c'est quelque chose, là. Là, les employés renoncent au syndicat.
Oui, et donc, ça ouvre la voie aux trois possibles chemins d'avenir de la Banque Laurentienne. Le premier, tenter de continuer les opérations tel un petit village gaulois entouré de Romains. Deuxième, vendre en morceaux. Tu peux vendre B2B Trust, des portefeuilles, des activités. Tu peux segmenter la banque et la vendre à d'autres joueurs. Vendre des actifs. Et finalement, tu peux aussi vendre en un seul morceau. C'est-à-dire que tu peux te faire avaler par Royal, Scotia, TD, Banque Nationale, peu importe. Et c'est sûr que symboliquement, ça a l'air bizarre de banaliser ça, mais d'un point de vue purement financier, c'est si petit la Banque Laurentienne qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau de la concurrence des marchés, au niveau des emplois. Oui, là, il y en a au siège social qui seraient probablement perdus ou fusionnés ou regroupés, mais il faut comprendre une chose. La Banque Laurentienne, c'est une entreprise privée. Tu as un conseil d'administration. Et comme membre du conseil d'administration, tu ne représentes qu'une seule personne. C'est les intérêts des actionnaires. Et donc, présentement, les actionnaires qui sont actionnaires de la Banque Laurentienne ont fait un bon rendement récemment. Mais si tu regardes au niveau des dernières années, c'est toujours la même chose. L'action monte à 40, 45, oups, descend. À un moment donné, ça monte à 60, oups, descend. C'est un jeu de hausse, d'optimisme et de déception. D'optimisme et de déception. Et donc, si tu regardes ça froidement, c'est sûr qu'il doit y avoir des tractations derrière. T'sais, l'ancien président voulait transformer la banque en banque conseil, probablement délaisser le syndicat, ce qui a été réussi pour la rendre attrayante, mais est-ce que la présidente actuelle a un mandat de mettre une pancarte à vendre? Ça, ça n'a jamais été dit publiquement, ça ne sera jamais dit publiquement, ils diront jamais. Mais jamais, quand j'ai parlé de ce sujet-là, il y a quelqu'un de la Banque Laurentienne qui m'a appelé pour me dire « t'as tort ».
Mais est-ce qu'une petite banque peut encore, là, dans l'univers de, je dirais, puis tu sais, on sait que le système bancaire canadien est très particulier aussi, là. Est-ce que c'est une banque qui peut survivre?
Oui, dans certains secteurs. Puis garde, prends par exemple la Royal. Elle est 76 fois plus grosse que la Laurentienne en capitalisation boursière. Donc, les états financiers, il y a une proportion aussi. Imagine-tu sa capacité à mettre en place un système d'imagerie, mettre en place un système informatique, mettre en place un nouveau développement. Quand t'es gros, les coûts fixes, t'es amorti sur beaucoup de clients, beaucoup d'employés. Plus t'es petit, t'as les mêmes obligations réglementaires, t'as les mêmes obligations de système, mais t'es pas aussi gros. La preuve, pis ça, Paul, c'est l'argument massue. On est en 2021. T'as pas encore d'application sur l'Apple Store, là. Mmh. T'es encore un site, qu'il faut que tu ailles avec ton cellulaire sur le site Internet mobile, puis là, tu transiges. Ça démontre à quel point t'es petit par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment l'argument, monsieur. Alors, c'est à suivre,
ouais.
Mais le marché, présentement, anticipe un mouvement, quelque chose.
Bon, le gouvernement du Québec envoie le message suivant. Face à la surchauffe du marché immobilier, on n'a pas l'intention d'intervenir.
Oui, les mécanismes significatifs sont ailleurs. Je donne un exemple. Le gouvernement du Québec n'a pas d'impact sur les taux directeurs de la Banque du Canada qui dit « on n'augmentera pas ça avant 2022 et le T2 2022 peut-être ». Et donc, ça influence les taux variables. Et les taux variables, c'est qui influence ça? C'est aussi les banques. Les banques et les institutions financières qui disent « on négocie un rabais sur le taux préférentiel qu'on offre à nos bons clients. Qui décide de ce taux-là? C'est pas le Québec, c'est les institutions financières. Puis ça aide les gens à faire de la surenchère. La SCHL, est-ce que c'est au Québec? Non. Le programme qui permet aux gens d'acheter.
OK, mais ce qui était en train de dire, finalement, c'est qu'on a beau dire, on a beau faire, on n'a rien entre les mains pour changer la réalité. Là.
On n'a pas le pouvoir. Puis la titrisation se décide ailleurs. Donc les banques peuvent prêter plus parce qu'il y a des programmes nationaux de titrisation. Le test de capacité des acheteurs, c'est pas le Québec qui décide ça. T'sais, le test qui dit en sorte « soyez capable d'acheter à tel niveau de taux ». Et donc, c'est l'offre et la demande. Même si on mettait des micro-analyses de donner l'information transparente, ça jouerait peut-être un petit 10-15 000. Mais dans la réalité du marché, c'est offre-demande. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si les gens font de la folie, de la surenchère, font des offres de fou, achètent à 100 000 plus cher, l'avenir va nous dire s'ils ont eu raison ou non, puis un jour, la capacité de payer des acheteurs s'arrête. Alors.
Non, mais ça, c'est sûr. Mais il y a une autre réalité. Moi, je pense que cette année, là, au 1er juillet, la crise du logement, on va nous arriver en pleine face. Là.
Ben, surtout, Paul, là où ça fait mal, c'est les nouveaux propriétaires qui vont dire à leurs locataires, je peux pas faire comme Georgette et Henri, puis te laisser un loyer non augmenté pendant 15 ans parce que mon immeuble est payé. Moi, je l'ai payé 850 000. Ça me coûte 2 500 $ par mois vivant en bas. Toi, ça te coûte 6,75. Je vais t'augmenter de 20 $. J'ai droit avec les taux d'intérêt, tout ça. Donc, acceptes-tu? T'sais, il va arriver ça aussi. Puis il va y avoir des gens qui vont chercher un logement qui n'en ont pas, puis qui vont se frapper à la juste valeur marchande des loyers qui est rendue pas mal plus élevée qu'avant.
Merci, Pierre. Bonne journée. 7h22.